Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Arrowverse.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses.
Je suis le Monitor. Depuis des millénaires, enfin, peut-être un peu moins longtemps, mais on va s'en tenir là, c'est pour l'effet dramatique, j'observe les méta-humains du multi-univers. Comme l'espace et les dimensions n'ont pas de limite pour moi, je sais déjà que des mondes vont mourir, des mondes vont revivre, mais que l'univers ne sera plus jamais le même.
Alors que l'on arrive à la fin d'un cycle et au début d'un autre, vous allez voir avec moi comment celui qui a instauré cet univers, qui en est à l'origine, qui lui a donné son nom et qui vient de connaître sa conclusion, a vécu. Comment il est devenu quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Il nous faut faire vite, car mon alter ego d'antimatière va bientôt arriver dans le but de tout détruire, l'anti-monitor et sa vague d'énergie négative. Mais avant d'en arriver à cette crise, revenons au commencement. Si vous vous souvenez bien, et sinon vous pouvez très bien le réécouter, j'avais dressé déjà le constat accablant de la présence des super-héros sur le petit écran au moment de parler de l'incroyable Hulk. Enfin, accablant pour les super-héros de la Marvel, qui se vautrent d'échec en échec, d'adaptation à côté de la plaque, en adaptation ratée, exception faite du dit Hulk et du très récent Daredevil. Alors que les personnages, par contre, de la concurrence, DC, les super-héros des origines, eux, ils cartonnent littéralement. Superman, Batman et Wonder Woman, la trinité des héros, vedettes de chez DC, enchaînent les adaptations avec bonheur à travers les décennies de Lois et Clark à Gotham. Donc, continuer d'adapter à la télévision ces personnages emblématiques qui font partie de la pop culture et en faire des séries multigénérationnelles, ça tombe sous le sens. Et c'est en plus assez facilité par le fait que, maintenant, Warner Media, c'est Warner Media qui possède DC Comics. À l'origine du lancement de la série Arrow, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, le succès cinématographique des Batman de Nolan. Et le style extrêmement sombre de ces films va très fortement imprégner cette nouvelle série. Ensuite, il y a le succès cinématographique de Iron Man, un personnage de second plan de la Marvel, qui gagne en profondeur et lance le Marvel Cinematic Universe. Un personnage torturé, traumatisé, qui dissimule cela sous une arrogance toute apparente. Alors, pourquoi ne pas en faire de même avec un personnage de second plan de la DC, hein ? Tiens, l'archer vert, le Green Arrow, ça sera celui-là. Il est très loin de la fameuse Trinité déjà mentionnée, donc il ne fera pas d'ombre à d'éventuelles versions cinéma, car personne n'imagine confier à l'archer vert les rênes d'un blockbuster. Après, il y a aussi la fin de Smallville en 2011. À l'époque, le directeur de la chaîne CW, Mark Pedowitz, qui diffusait Smallville, reconnaît qu'énormément de jeunes hommes adultes, en particulier ceux entre 18 à 34 ans, la cible la plus importante pour les annonceurs publicitaires, ont quitté la chaîne à la fin de Smallville. Trouver donc un autre super-héros qui attire cette cible de spectateurs, c'est crucial. Et enfin, à la base du lancement de Arrow, il n'y a surtout pas le comics. Mais alors, vraiment pas hein. Dans sa présentation de la série en 2012, dans son traditionnel numéro Fall Preview, où il passe en revue toutes les nouveautés, TV Guide commence en précisant dès la première ligne que même si c'est une nouvelle série qui est basée sur un comics, on n'a pas besoin de les lire et de les aimer pour apprécier Arrow. On est plus sur un thriller criminel, proclamait Mark Guggenheim, le producteur exécutif de la série. Arrow est ancré dans le réel et nos personnages n'ont pas de super pouvoirs. Ce ne sont pas des extraterrestres. Allez, hop, on se dédouane, on prend ses distances. Ah, mais nous, on n'est pas un super slip avec des méga pouvoirs. On est un vigilant. Alors, à la base, d'où vient-il cet Arrow ? En fait, il vient de Green Arrow, L'Archevêre a été créé pendant ce qu'on appelle l'âge d'or des comics. C'était en 1941. Il rejoignait avec d'autres créations la fameuse Trinité dont je vous ai parlé. Très clairement, Oliver Queen, c'est son nom, était un décalque à la fois de Robin des Bois, l'archer mythique de la forêt de Sherwood, de Guillaume Tell aussi, d'une certaine manière, pour son maniement des flèches, et surtout de Bruce Wayne, millionnaire le jour, justicier sous son masque. Comme Batman et Robin, Green Arrow a son Arrow Car, sa base, elle, à Arrow Cave, et il a même un jeune comparse, Speedy, exactement comme Robin. Tous deux combattent le crime grâce à leur acuité au tir à l'arc avec des flèches gadgets assez fantastiques et assez peu crédibles. Pendant des décennies, Green Arrow était un personnage de second plan, qui n'avait même pas un magazine à son nom. En France, il a été publié dès 1957 dans des petits formats en noir et blanc, ce qui fait qu'il était complètement absurde de lui coller une couleur qui ne se voyait donc pas puisque c'était du noir et blanc. Il est donc devenu en France Flèche Rapide. Et son jeune associé porta le nom de Dar Volant. Non mais, je ne déconne pas, Dar Volant. Tous les deux devenant les Francs Archers. Aux États-Unis, le personnage a connu une métamorphose, plus de 25 ans après sa création. Un renouvellement complet dans son apparence, physique, dans son costume et dans sa personnalité. Il est devenu le porte-parole des minorités, il a développé un esprit libertaire, de gauche, se fait pousser une barbiche, arbore un look plus rugueux et va vivre, aux côtés de Green Lantern, un road trip initiatique à travers les États-Unis. Et c'est un road trip initié par Denny O'Neill et Neil Adams qui fera date dans l'histoire du comics et remettra le personnage sur le devant de la scène en lui permettant de découvrir que Speedy, son ancien jeune coéquipier, vous savez, le Robin là, avec des flèches, en fait est devenu un junkie qui carrément se fait un shoot en pleine couverture, dénonçant ainsi un mal « more deadly than the atom bomb », plus mortel que la bombe atomique. Ça, évidemment, à l'époque, ça a marqué. Depuis cette époque, le côté revendicateur du personnage a perduré sous la houlette de plusieurs auteurs et dessinateurs, comme Mike Guell, par exemple, qui a d'ailleurs participé à la série à travers un portrait robot diffusé par la police de l'archer justicier. Il n'y a maintenant plus rien de ridicule à s'appeler l'archer vert. Et Green Arrow, en fait, a déjà pris vie à l'écran. C'était dans la série Smallville, et dans une version extrêmement teenagère du personnage, qui était incarnée par Justin Hartley. Ouais, le Justin Hartley qu'on retrouve maintenant dans la formidable série This Is Us. Il tient le rôle d'un acteur qui claque la porte de la sitcom qui l'a rendu célèbre. Là, dans Smallville, il jouait encore les seconds couteaux aux côtés de Clark Kent, Superman en devenir. Nous sommes à la rentrée 2012. Guggenheim porte le lourd fardeau d'avoir coécrit le flop cinématographique de l'année précédente. Le Green Lantern de Martin Campbell avec Ryan Reynolds. Un Ryan Reynolds qui n'était pas encore Deadpool. Lui et le coproducteur de la série, Greg Berlanti, vont donc en tirer toutes les leçons. Ils avaient perdu le contrôle créatif du film. Ils vont donc plutôt envisager de transposer un héros de comics à la télévision. Parce que là, ils auront le contrôle. Guggenheim a d'ailleurs écrit aussi pour les comics sur des personnages comme Wolverine, comme Spider-Man, Flash et Aquaman. Mais là, on est dans une série télé. Elle se veut fédératrice, donc clairement, pas de super-pouvoir. Et surtout, comme les autres séries de ce type, de Heroes à Smallville, pas de costume lycra, mais une tenue tout ce qu'il y a de plus classique, noir, cuir, surtout pas de vert, hein. Pas de masque non plus, mais une capuche rabattue. Une tenue créée par Colin Atwood, un monsieur qui a déjà remporté 4 Oscars pour ses tenues et ses costumes. Le Green Arrow devient donc Arrow tout court, et le personnage n'a même pas de nom dans la première saison. On le surnomme The Hood. Ses deux coéquipiers vont être John Deagle, interprété par David Ramsey, initialement son garde du corps, et Felicity Smoke, Emily Brett Richards, qui est la geekette de service, toujours penchée sur ses écrans et prête à hacker Internet. Revenu dans sa ville de Starling City, après avoir été porté disparu 5 années durant, le playboy milliardaire Oliver Queen retrouve sa mère, Moira, sa sœur, Thea, son meilleur ami, Tommy. Et il leur dissimulera que ces années sur une île perdue, où il s'est échoué après le naufrage de son bateau, un naufrage qui coûte à la vie à son père et à sa fiancée, l'ont définitivement changé. On le découvre petit à petit, au fil des épisodes, avec des flashbacks qui se déroulent sur cette fameuse île, Lian Yu, un nom qui signifie en mandarin « purgatoire ». C'est bien trouvé. Il entame donc une quête en rédemption, en se vengeant de tous ceux qui, d'après lui, ont trahi la ville.
« You have failed this city. »
Ouais, lui, il le fait muer avec la grosse voix. Mais comme vous êtes vigilant, vous aussi, vous avez noté que ce numéro de Previously n'a pas vraiment pour titre Arrow, mais le Arrowverse. Un univers, le Arrow Universe. Un univers développé à partir de la série Arrow. L'équivalent du Marvel Universe, quoi. À l'époque, Guggenheim confie que ce développement n'était absolument pas prévu, ni même envisagé. Pas de costume flashy, pas de super pouvoir. Arrow restait un solitaire sur les écrans de télévision. Mais bon, on dit un truc, hein, et puis ensuite les événements vous font changer d'avis. C'est bien connu. Arrow, Oliver Queen, c'est Stephen Amell, le beau gosse obligatoire pour une série de la chaîne CW. Il a d'ailleurs eu déjà des rôles dans Private Practice, mais là, son look et son physique impressionnent. Dans chaque épisode, on le voit s'entraîner avec une sorte de remontée de l'échelle à la seule force de ses bras, et on appelle ça le Salmon Ladder. C'est franchement impressionnant, c'est assez intraduisible. Le Salmon, c'est un saumon, c'est la remontée du saumon, vous voyez. Amell devient immédiatement un sexe symbole et ironise sur la quantité de scènes où il apparaît torse nu. Quelques mois plus tard, on le rencontrait lors du festival de télévision de Monte Carlo, en compagnie d'autres journalistes comme Roman Higita, Eric Bush, Sébastien Barquet ou Katia de la Ballina.
I'd never read a Green Arrow comic book.
Je n'ai jamais lu Green Arrow, ni même un numéro de la Justice League of America avec Green Arrow dedans au fil des années. Et je n'ai jamais vu Smallville. En fait, quand on passe une audition aussitôt, dans tout le processus, on n'est pas très focalisé là-dessus. Tout ce qui m'importe avec une toute première audition, c'est d'être moi-même, d'être enthousiaste, charismatique, et d'être quelqu'un que les producteurs, le responsable de la distribution et le réalisateur peuvent voir et se dire « Ah oui !» Lui, il semble être un type bien avec qui on pourra travailler sans problème. Vous savez, c'est un élément essentiel, car vous allez passer énormément de temps avec la personne que vous aurez choisie. Pour moi, c'est vraiment une série basée sur les personnages. La mythologie des comics DC et l'historique de Green Arrow, c'est ce que les gens attendent d'une série de ce type. Tout cela est secondaire comparé aux relations entre les personnages. Après le tournage du pilote, j'ai demandé au réalisateur David Nutter quelle était sa scène préférée. J'ai demandé la même chose aux producteurs exécutifs Andrew Kreisberg et Mark Guggenheim, qui ont aussi écrit tous les deux des numéros du comic book Green Arrow. On pourrait s'attendre à ce qu'ils répondent « la première scène où tu enfiles le costume » ou bien « la première scène d'action ou quand je m'installe dans mon QG ». Mais les trois m'ont répondu la même chose. Notre scène préférée, la plus importante pour la série, c'est la scène du dîner au début de l'épisode. Car si on ne s'intéresse pas à cette dynamique familiale, le reste n'a aucune importance. Oliver est très ambigu au plan moral, et il y a beaucoup de raisons pour ne pas l'aimer. Ça va être quelque chose de très intéressant en tant qu'acteur. Une de nos sources d'inspiration, c'est la version Green Arrow Year One, par Andy Deagle, un scénariste dont on a repris le nom pour le personnage de John Deagle. Et il y a aussi The Longbow Hunter, par Mike Grell. Il y a beaucoup de choses qui nous ont inspiré là-dedans, qui étaient un peu nos phares. Mais on en a fait notre propre univers.
Dans la première saison de Arrow apparaissent deux éléments qui deviendront synonymes et associés définitivement à la série. La première, c'est Laurel Lentz, incarnée par Kate Cassidy, la sœur de la fiancée morte d'Oliver et elle-même son ex. L'autre chose, ce sont des séquences d'affrontements particulièrement violentes et sauvages, avec moult cascades et mouvements de caméra. Les scènes sont incroyablement dynamiques. Certaines de ces scènes seront même tournées en plan-séquence. Les responsables des cascades, T.J. Macaro et James Bramford, repoussent souvent les limites du possible dans le cadre d'une série télé hebdomadaire, avec un épisode par semaine, et comptent aussi sur la grande forme physique de leur vedette, Stephen Amell, pour assurer beaucoup de scènes. Ils font aussi appel souvent à un artiste, David McLean, pour faire des storyboards, des scènes de bagarre les plus compliquées, et pour les chorégraphier avec précision. Non content d'apparaître comme un vigilant muet par la vengeance, éliminant tous ceux qui figuraient sur la liste de son défunt père, et recensant donc les gens corrompus de Starling City, le Hood de cette saison doit affronter l'Archer Noir, son équivalent, mais encore plus sombre que lui. Et il n'est autre que Malcolm Merrill, interprété par le formidable et exubérant comédien John Barrowman. Mais oui, le John Barrowman qu'on a découvert dans Doctor Who et qui a été vedette de sa propre série Torchwood, puis l'invité de Desperate Housewives. Malcolm, c'est le responsable de l'accident de bateau qui coûta la vie à Robert Quinn et qui isola Oliver sur l'île où il apprit à devenir Arrow. Malcolm fait aussi partie d'une certaine Ligue des Assassins. La saison se termine sur une catastrophe, un tremblement de terre qui a détruit les Glades, tué Tommy Merlin, le meilleur ami d'Oliver, et dont on tient responsable la famille Quinn. Comme vous le constatez, cette première saison est très très sombre, et surtout elle n'implique en rien le développement d'autres personnages super-héroïques. Bon, à peu de choses près quand même. Son aspect réaliste assure son succès. La saison 2 de la série voit des changements majeurs, et pas uniquement dans la tenue d'Oliver Queen ou dans la présence plus importante de Roy Harper, qui était déjà apparu la saison précédente, mais principalement dans la mission d'Arrow, qui va graduellement devenir un justicier plutôt qu'un vigilant, et va définitivement adopter ce nom. Son ennemi cette saison, c'est Deathstroke, alias Slade Wilson. Et à sa grande surprise, Sarah Lance, elle est toujours en vie. Elle est devenue une guerrière depuis son séjour sur la fameuse île, et elle portera le nom de Canary. Le drame, en fin de saison, c'est la mort de Moira, la mère d'Oliver, face à Slade. Avec son bataillon, dopé au sérum Miracuru qui fait d'eux des super soldats, Deathstroke va piller Star City. Et l'élément le plus important de sa saison, c'est l'apparition dans les épisodes 8 et 9 d'un scientifique. Un scientifique de la police de Central City, un certain Barry Allen. À la fin d'ailleurs de ces deux épisodes, Barry Allen donne à Oliver un masque, plus pratique pour dissimuler son identité que la simple capuche rabattue. Puis, il revient à son laboratoire de Central City, voilà, fin des épisodes, et là, il est frappé par un éclair provenant de l'accident de l'accélérateur de particules du laboratoire non loin de là. Évidemment, il s'agit là de l'origine du personnage de Flash, un super-héros qui, lui, a des super-pouvoirs et qui fait partie aussi de l'écurie DC Comics. Il a été initialement créé à la même époque que Green Arrow, en 1940, en tant que Jay Garrick, et réinventé dans son incarnation moderne de Barry Allen, en 1956. Extrêmement populaire, le personnage se définit comme l'homme le plus rapide du monde, habité par la force Véloce, à cause de cet accident que je viens de vous décrire. Déjà présent dans les séries animées, il a aussi connu une précédente série en 1990, dans une version très inspirée par le style visuel et musical du Batman de Tim Burton, qui venait de remporter un véritable triomphe au cinéma. C'est John Wesley Shipp qui incarnait alors Flash. Ici, c'est le jeune Grant Gustin qui tient le rôle d'un Barry Allen bien plus jeune. Et déjà, Stephen Amell nous avait mis sur la voie quand on l'avait rencontré en juin 2013.
You know, actually, what I think would be cool would be the Flash. I think the Flash.
Ce serait cool d'avoir Flash. Ce serait un personnage vraiment cool. Il y en a tellement, Flash, Wonder Woman. Il y a une référence à Bloodhaven.
We've referenced Bloodhaven. I don't know if Nightwing.
Je ne sais pas si Nightwing a fait partie de la Justice League. Mais il y a tellement de personnages chez DC que ce serait intéressant de les présenter via notre univers.
To begin to introduce some of them through our universe.
Et vous avez bien entendu, il dit notre univers. Et le Arrowverse n'est donc pas une vue de l'esprit. Bien que cette apparition dans Arrow soit un test, où Barry Allen n'est pas encore un super-héros, il n'est pas encore le Flash, et donc il ne porte pas de costume, il est quand même question de le faire revenir un petit peu plus tard dans la saison, cette fois-ci en pleine possession de ses pouvoirs. Mais cela ne va jamais se faire. La chaîne CW, convaincue par les producteurs de Arrow, Mark Guggenheim et Greg Berlanti, va donner son feu vert directement à une série pour la saison prochaine. Sauf que nos producteurs sont quand même des petits malins. Vous vous souvenez qu'au tout début de Arrow, on nous avait juré, promis, craché, qu'on n'avait rien en tête en lançant cette série. Surtout pas de se lancer dans les super-héros aux super-pouvoirs. Mais c'était sans compter avec les 4 140 000 spectateurs du premier épisode de la série. Et donc du record d'audience sur la CW qui a fait, avec Arrow, son meilleur lancement depuis celui de Vampire Diaries. Donc, 2 mois à peine après le lancement d'Arrow, fin 2012, le projet de lancer une autre série de super-héros, mais vraiment de super-héros ce coup-ci, se tisse, et ce avec la bénédiction du responsable du programme de la chaîne CW. Greg Berlanti, le producteur, confirme que leur challenge était de prouver qu'il était possible de faire à la télévision ce que le cinéma fait tous les 6 mois, des films avec des super-slips. L'enjeu était là, mais il est de taille. Ce Flash n'avait pas la même tonalité que Arrow, car le héros a, lui, des super-pouvoirs, il a un costume extrêmement voyant, écarlate, et c'est un personnage bien moins athlétique que ne l'est Stephen Amell, mais tout aussi attractif et d'apparence vulnérable. Autre contrainte, les effets spéciaux. Différents de ceux de la version des années 90, ils doivent cependant être extrêmement crédibles. Et là, ils sont très très nombreux. Il y a plus de 200 effets dans chaque épisode de Flash. Enfin, si Arrow présente tout de même des personnages issus de comics, comme Bronze Tiger et Brother Blood, Flash, lui, plonge plus franchement dans les super-vilains et la science-fiction. Il y a même Captain Cold et le Reverse Flash qui font partie de son univers. C'est donc Grant Gustin, une des révélations de Glee, qui endosse le costume du Scarlet Speedster, et son père, incarcéré pour le meurtre de sa propre femme, est à l'origine de sa quête pour la vérité et pour la libération de celui qu'il sait innocent. Et son père, eh bien, il est interprété par John Wesley Shipp, le Flash de la série télé de 1990. C'est un bel hommage. Ces rapprochements avec les personnages de comics vont donc se poursuivre dans la saison 3 de Arrow, qui est diffusée en parallèle avec celle de The Flash. Ayant en tête les rencontres entre l'homme qui veut l'être meilleur et Super Jimmy qui ont bercé leur enfance, les producteurs, Berlanti et Guggenheim, vont même créer une histoire sur deux épisodes, un crossover entre les deux séries. C'est définitif, sous la houlette du producteur exécutif Andrew Kreisberg, Oliver n'est plus un tueur en quête de revanche, mais un vrai justicier, et sa relation avec Felicity va évoluer sur un terrain bien plus romantique. L'ennemi d'Oliver, pour cette saison-là, c'est ni plus ni moins que Ra's al Ghul, le gourou en quête d'immortalité. C'est lui aussi qui dirige la fameuse Ligue des Assassins et possède le Puits de Lazare qui, comme son nom l'indique, peut ressusciter les morts. Le personnage a d'ailleurs déjà affronté Batman par le passé, entre autres dans les films de Nolan, où il était incarné par Liam Neeson. Roy Harper, interprété par Colton Haynes, passe du stade de gentil pickpocket à l'identité d'Arsenal pour lutter aux côtés d'Arrow, qui deviendra graduellement son grand frère en quelque sorte. Et Laurel Lance fait maintenant partie de la Team Arrow, car elle aussi, suite à un entraînement forcené, devient le Black Canary. Bon, d'ailleurs, on aurait pu s'en douter, parce que Laurel, elle travaille initialement au sein de la City Necessary Resource Initiative, la CNRI, Canary. Et oui, ben voilà, il suffisait d'y penser. Et apparaît aussi un autre personnage, tête grande, un boxeur, qui dans les comics lutte contre le crime sous l'identité de Wildcat. Même si la série reste ancrée dans le réalisme urbain qui a fait sa marque de fabrique, elle introduit quand même un autre super-héros, Ray Palmer, The Atom. Là encore, Atom, c'est la réincarnation moderne d'un super-héros créé dans les comics durant les années 40. Dans sa nouvelle version, Atom peut devenir minuscule, comme son nom l'indique, et même naviguer au sein des signaux d'une ligne téléphonique. C'est en quelque sorte l'équivalent de Ant-Man de la Marvel, si vous voulez. Évidemment, dans la série Arrow, le personnage est résolument différent. C'est le nouveau propriétaire de la compagnie d'Oliver Queen, et donc le boss de Felicity. Il va, par la suite, inventer un exosquelette qui lui permet de modifier sa taille. Et dans le rôle de Ray Palmer, on trouve Superman. Enfin, on trouve Brandon Routh. Brandon Routh qui incarne donc le personnage et qui a tenu le rôle de Superman une fois au cinéma dans le film Superman Returns. Là encore, c'est un bel hommage. Mais puisque je viens d'évoquer Superman à propos de Brandon Routh, ça tombe très bien. Hein, Superman n'apparaît pas dans la série. Pas encore. Mais c'est sa cousine qui va surgir la saison suivante. Nous sommes à la rentrée 2015. Arrow en est à sa quatrième saison, Flash sa deuxième, tout ça marche très bien, et une série Supergirl est effectivement lancée sur le network grand public CBS. Car en effet, si Arrow est devenu un justicier urbain et si Flash est un super-héros, Supergirl, c'est plus une comédie romantique d'aventure avec des conflits amoureux et même Calista Flockhart. Ally McBeal en personne dans le rôle d'une directrice égocentrique et superficielle, Kat Gwant. C'est Melissa Benoist, elle aussi une des révélations de la série Glee, comme Grant Gustin, qui va incarner Kara Zor-El. Et qui, comme Jor-El, Superman, a échappé à la destruction de Krypton pour arriver sur Terre et se dissimule sous l'identité de Kara Danvers. Tout comme pour John Wesley Shipp, l'ancien Flash qui tient le rôle du père de Barry Allen dans la nouvelle série, la tradition se poursuit dans Supergirl, puisque les parents adoptifs de Kara sont incarnés par Dean Cain, qui était le Superman de Lois et Clark, et par Lane Slater, qui fut, elle, Supergirl dans le film de 1984. Elle elle aussi produite par le même concepteur d'Arrow et de Flash, Craig Berlanti, cette série Supergirl ne laisse plus planer le moindre doute. Bon, d'un autre côté, étant donné qu'elle vole, elle ne laisse rien planer. Il est question là de créer une véritable écurie télévisée avec de plus en plus de personnages issus des comics DC. Après Atom, Black Canary, Vixen, Katana, on voit très vite débarquer John Jones, le martien Manhunter, qui s'associe à Supergirl, Jimmy Olsen, qui va prendre l'identité du gardien, Mon-El, de la Légion des super-héros, qui va rejoindre Kara, et c'est Tyler Rochlin, déjà vedette de Teen Wolf, qui endosse le collant et la cape de Superman dès la saison 2 de la série. Vous commencez à avoir se former un plan un peu plus global pour le Arrowverse, là ? Moi, ça me semble assez clair. En saison 4, Arrow devient le Green Arrow. Il lui a fallu quand même 4 saisons pour porter son nom. Et le méchant de la saison, c'est Damian Darhk, un être au pouvoir magique incarné par Neil McDonough. Neil, vous l'avez vu dans énormément de productions. Banner Brothers, Star Trek First Contact, Boomtown, Desperate Housewives, Minority Report. Il a aussi été chez la concurrence, chez Marvel, où il tenait le rôle de Doom Doom Dugan. J'invente rien. C'est un des soldats du commando hurleur de Nick Fury dans le premier film Captain America. À la fin de cette saison, non seulement Damian Darhk va tuer Laurel Lance, oui, il va tuer Black Canary, donc bye bye Kate Cassidy, mais Oliver va devenir le maire de Star City. Et il va même se découvrir un fils, William. Bon, ben, franchement, c'est un soap opéra. Hein. Mais là encore, cette saison renforce le Arrowverse un peu plus avec de nouveaux membres, les légendes. Un nouveau double épisode retrace cette fois-ci une seule et unique histoire qui va servir au lancement de la nouvelle série, Legends of Tomorrow. Elle réunit des personnages déjà apparus dans Arrow, comme Ray Palmer, donc Atom, et Sarah Lance, à savoir White Canary. S'ajoutent deux ennemis de Flash reconvertis, Heatwave et Captain Cold, incarnés par le duo de Prison Break, Dominic Purcell et Wentworth Miller. Et on mixe le tout avec de nouveaux personnages adaptés des comics, Firestorm, Hawkman et Hawkgirl. La série, qui est lancée dans la foulée du crossover entre Arrow et Flash, expédie ses personnages à plusieurs époques dans le but de gérer les fluctuations et tentatives de modification de la ligne temporelle. D'année en année d'ailleurs, Legends of Tomorrow non seulement accueille d'autres super-héros comme ceux de la Justice Society of America, Hawkman, Obsidian et Stargirl, mais aussi adopte graduellement un style de plus en plus loufoque et excentrique. Ces personnages de second plan contribuent à peupler un Arrowverse qui commence très sérieusement à concurrencer les Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman et Justice League qui vont tenter de s'imposer sur le grand écran. Enfin, tenter, j'ai bien dit. Hein. Et ça continue, puisque la saison 5 de Arrow voit un retour au style urbain de la toute première, s'éloigne des sorciers et des exorcistes de la saison précédente, pour que Green Arrow redevienne tout sauf un solitaire, malgré le départ de Deagle et de sa sœur Thea. Il monte une nouvelle Team Arrow avec d'autres justiciers, Wild Dog, Mister Terrific, Ragman, Artemis. Et ce ne sont pas les seuls. Pour aider Oliver dans ses nouvelles fonctions de maire, il va engager un garde du corps, capable de prendre l'apparence de n'importe qui, et donc de devenir une véritable cible humaine. Ça vous dit quelque chose, hein ? Et il a pour nom Christopher Chance, et oui, c'est lui, Human Target, un personnage mineur, encore, des comics DC, et déjà adapté deux fois à la télévision par le passé. Vous vous souvenez peut-être, c'était sur TF1, en 1990, avec Mark Vallée, et la version précédente était avec Rick Springfield, et elle date de 1992. L'ennemi de la saison, c'est Prometheus, alias Adrian Chase, lui aussi repris depuis les comics. Il atteindra son but en prouvant à Oliver que tous ceux qui l'approchent sont voués à la mort. Et dans les flashbacks de ses 5 années d'absence, l'ennemi d'Oliver est incarné par Dolph Lundgren, le méchant Ivan Drago, hein, le boxeur dans Rocky IV. Et la saison se termine par, boum, l'explosion de l'île de Lian Yu, où sont tous nos héros. Et encore cette saison, une histoire réunit tous les personnages de cet Arrowverse. Supergirl, Flash, les légendes, 15 personnages en tout, face à une invasion d'extraterrestres, les Dominion. La pure logistique nécessaire pour ces réunions annuelles est tout simplement colossale. Ça vous paraît rien comme ça, mais en effet, les acteurs doivent non seulement jouer dans l'épisode de leur propre série, mais ils doivent aussi jouer dans l'épisode de l'autre série. Bon, jusqu'à là, c'est pas très problématique, sauf que pendant qu'ils tournent la série de l'autre, ils doivent aussi tourner l'épisode suivant de leur propre série à eux. Parce que la production ne s'arrête pas pour autant. Donc c'est comme s'il faisait un 23e épisode qui s'insérait dans les 22 qu'ils doivent déjà tourner chaque saison. Donc ça signifie qu'il faut adapter les scripts et surtout ajuster qui est où, quel jour et à quel moment. Par chance, les séries sont maintenant tournées dans les mêmes studios de Vancouver, ce qui simplifie quand même un peu les choses. Et quant aux scénaristes, ils travaillent aussi sur l'autre série pour que les épisodes restent dans le même ton. C'est Michael Emerson, le sinistre Benjamin Linus de Lost et le planificateur génial de la remarquable et malheureusement un peu oubliée série Person of Interest, qui fait son entrée dans la saison 6 de Arrow à la rentrée 2017. Il tient un rôle un peu semblable d'ailleurs à un hacker, mais pas bienveillant du tout, puisqu'il s'allie à des criminels, des dealers et des terroristes pour se venger du Green Arrow. Mais gros retournement de situation, c'est en réalité Ricardo Diaz, Richard Dragon, incarné par Kirk Acevedo de Fringe, qui est le vrai méchant manipulateur de la saison. Dans la bagarre, Quentin Lenz, le père de Sarah et Dina, qui était dans la série depuis le tout début, il était d'abord opposant Oliver puis son allié, meurt. Et Oliver se livre et part donc en prison après avoir révélé au monde entier qu'il est le Green Arrow. Donc, de maire de la ville, il part en prison. C'est sympa. Cette saison, le grand meeting des super-héros entraîne Green Arrow, Flash, Supergirl et les légendes face à leur double en provenance de la Terre X, une terre parallèle à la nôtre où les nazis ont gagné la guerre et où donc Arrow est devenu le Dark Arrow, Supergirl et Overgirl, etc., etc. La difficulté cette année avec le crossover est que non seulement il réunit des personnages en plus de leur série, mais que chaque acteur doit jouer deux rôles, lui et son double maléfique de la Terre X. Cette idée de terre parallèle où existent des personnages légèrement différents de ceux que nous connaissons, eh ben, elle est à nouveau directement importée des comics. Des décennies durant, dans les comics, des héros de Terre 1 découvraient leur double de Terre 2, leur ennemi de Terre 3, les nazis de Terre X, par exemple, et déjà dans la série, le personnage de Black Canary est de retour, toujours incarné par Kathy Cassidy, mais il s'agit de sa maléfique incarnation qui vient d'une autre Terre. Bon, si ça continue, en suivant le même chemin que les comics d'ici, le Arrowverse se dirigera vers une crise. Une crisis, une crise inévitable. La saison suivante, en 2018, le grand raout des super-héros s'appelle le Elseworld et il met en scène une réalité alternative où un beau matin, Oliver se réveille et est devenu Flash. Et Barry Allen, il est devenu Green Arrow. Et Supergirl, elle est dépouillée de ses pouvoirs. Lors de leur quête pour découvrir qui a causé cette stupéfiante métamorphose, Oliver, Barry et Kara vont rencontrer à Gotham City une certaine Kathy Kane, Batwoman. Et là encore, il s'agit d'une rampe de lancement pour une nouvelle série de super-héros, mais tout aussi urbaine et sombre que ne l'était Arrow à ses débuts. Batwoman verra le jour à la rentrée 2019. Pour la 7e saison, on est déjà arrivé à la 7e saison de la série Arrow. Oliver est derrière les barreaux et la nouvelle productrice exécutive, Beth Schwartz, qui était auparavant scénariste de la série, évoque le mystère et la rédemption comme les sujets principaux de la saison. Toujours à la tête de son empire criminel, Ricardo Diaz crée les Longbow Hunters, une équipe d'archers destinée à éliminer tous les proches d'Oliver. Mais la grande méchante de la saison n'est autre que la demi-sœur du Green Arrow, Emiko Quinn, et le groupe terroriste du 9e cercle. Enfin, Oliver et Felicity quittent Star City et s'installent à Bloomfield. Débarquent dans ces épisodes des visiteurs du futur, la Team Arrow de 20 ans dans le futur. Oui, on n'est plus trop dans le côté vigilant, on est franchement dans la SF. Hein. Avec à la tête de cette Team Arrow du futur, William, le fils d'Oliver, maintenant devenu grand, tout comme Mia, la fille d'Oliver et de Felicity. Enfin, nous sommes à la rentrée 2019 et la série s'achève avec sa 8e saison. En réalité, c'est au cours de la saison 6 que Stephen Amell décide qu'il arrêtera la série à la 7e année, à la fin de son contrat initial. Mais Greg Berlanti va le convaincre de faire une saison finale plus courte qui verra donc la conclusion et la fin de son personnage. Et cette conclusion, elle a déjà commencé la saison dernière.
Je suis le Monitor. Oui, je reviens. Je reviens m'entretenir avec vous car il est temps pour moi de me révéler à ces super-héros que j'observe depuis longtemps et dont vous avez suivi la progression et la multiplication. J'étais au cœur de l'histoire de la saison dernière, le fameux Elseworld, et je testais nos principaux personnages. Entre autres, Oliver, avec qui j'ai fait un marché. Sa vie contre celles de Flash et de Supergirl, pour maintenir l'équilibre des différents univers entre eux. Je suis donc de retour dans les dernières secondes du dernier épisode de la saison 7, pour que Oliver tienne sa part du marché. Chacun des 7 premiers épisodes de cette saison finale d'Arrow va donc retracer les missions qu'Oliver va accomplir à travers des lieux et des époques différentes, à mon service, face à la menace qui pèse. Je lui ai dit qu'une crise cataclysmique se préparait et qu'elle sonnera le glas pour lui.
En 1985, Crisis on Infinite Earth est une mini-série en 12 parties, donc une année entière, et elle a profondément changé le monde des comics américains et de la DC en particulier. Marv Wolfman et George Perez avaient en effet pour ambition de simplifier toute la continuité des personnages, de carrément détruire tous les univers parallèles qui s'étaient ainsi créés au fil des années et de l'imagination des scénaristes, et de faire repartir l'univers à l'aube des temps, à zéro quoi. Fini les mondes parallèles avec le Superman des années 40 sur une Terre, celui des années 60 sur une autre, ça devenait incompréhensible, surtout pour le lecteur nouveau venu. Après la Crisis, l'univers des super-héros d'ici est modifié, simplifié, avec une nouvelle continuité. Le succès de cette série fut tel que les années suivantes, d'autres événements majeurs contribuent à balayer certaines incohérences du passé et à faire revenir la continuité depuis le commencement. Et cela, pas uniquement chez DC, mais bien chez tous les éditeurs de comics. Et ce n'est pas un hasard si Crisis on Infinite Earth est la pierre de touche pour Greg Berlanti, le grand producteur qui a co-créé toutes ces séries et une dizaine d'autres simultanément. C'est en raison de sa passion pour cette série qu'il découvrit tout jeune qu'il adapta Flash. Si vous êtes vigilant d'ailleurs, vous verrez même qu'il annonçait à la fin du pilote de cette série, en 2014, avec un journal du futur, la disparition de Flash durant une crisis. Bon, Berlanti reconnaît qu'à l'époque, il n'avait aucune idée s'il allait pouvoir mener à bien cette histoire. Dans ce fameux comics, Crisis on Infinite Earth, l'anti-monitor, un être omnipotent au cœur du monde d'antimatière, détruit tous les mondes parallèles les uns après les autres. Et les super-héros de tous ces univers s'unissent et parviennent à altérer ses desseins. Ce faisant, ils vont subir de lourdes pertes et des personnages majeurs vont être sacrifiés, comme Flash et comme Supergirl. Et parmi les personnages à la trappe, Green Arrow, le Green Arrow des années 40. Ça tombe bien avec l'avenir de notre Arrowverse. C'est Arrow qui va s'achever et pas Flash ni Supergirl, comme dans le comics. C'est donc pour cela qu'il y a un pacte de fait entre Oliver et le Monitor. Il échange sa vie contre celle des deux super-héros qui étaient censés mourir. Maintenant, le moment est donc venu. Et avec toutes ces années d'expérience derrière eux, les producteurs ont l'ambition d'adapter cette série légendaire. Ils adjoignent d'ailleurs la collaboration de Marv Wolfman, l'auteur d'origine, pour écrire les 5 épisodes. 5 épisodes qui vont donc non seulement conclure le destin de Oliver Queen, à la place de celui de Barry et de Kara, mais aussi une toute première tranche du Arrowverse et le relancer. Un peu comme Avengers Endgame l'a fait avec la première tranche de l'univers cinématographique Marvel. Une vague d'antimatière détruit peu à peu tout le multivers, tous les univers parallèles. Terre 2 est la première à y passer, et sa Laurel Lance va en réchapper de justesse. Terre 38, la terre de Supergirl, Superman et Lois Lane, est aussi détruite. Tous les héros joignent donc leurs forces pour combattre l'anti-monitor et ses Shadow Demons. Comme dans le comics, ils vont échouer, voire même se sacrifier pour pas grand-chose. 7 d'entre eux vont s'égarer dans un lieu hors du temps et de l'espace pour combattre une nouvelle fois l'anti-monitor. Et elles vont parvenir à relancer l'univers tout entier, ce fameux multivers, mais cette fois-ci sur des bases nouvelles. Démesurément ambitieuse pour des moyens, somme toute, extrêmement limités. C'est des moyens quand même de séries télé de la chaîne CW. La saga voit la réunion de tous les personnages habituels des séries de l'Arrowverse, mais aussi, et ça c'est proprement incroyable, des apparitions et des références à d'autres incarnations de ces personnages au cinéma, comme à la télévision. On retrouve par exemple, sur la Terre 167, le Clark Kent de la série Smallville, interprété par le même comédien, Tom Welling. On retrouve aussi le Flash de la série télé des années 90, incarné dans son costume de l'époque par John Wesley Shipp. On retrouve l'une des 3 Birds of Prey de la très courte série télé de 2002, sur la Terre 203. On voit Lucifer de la Terre 666, les Titans sur la Terre 9, le monde des films Batman de Tim Burton et même, accompagné du Bat-chien, Burt Ward, celui qui incarnait le Robin de la série Batman des années 66. The crisis is now upon us all. Holy crimson! C'est un véritable tour de force. Et je ne vous révèle bien sûr pas toutes les surprises de cette saga. Une fois la Quasis terminée, les héros sont unis comme jamais, prêts pour s'élancer dans une deuxième génération d'aventures. Et en ce qui concerne le premier super-héros de cet Arrowverse, Oliver Queen, il va donc effectivement se sacrifier pour que ce nouvel univers puisse voir le jour. Lors de son ultime combat contre l'Anti-Monitor, à son traditionnel « vous avez trahi la ville », Oliver va substituer « vous avez trahi cet univers ». Eh ouais, c'est presque la même chose. Dans l'épisode final, le 169e de la série, des personnages qui étaient morts dans l'univers pré-Crisis sont maintenant bel et bien en vie sur cette nouvelle Terre. Et tous et toutes rendent un dernier hommage au Green Arrow, le premier d'entre eux, un homme qui est devenu quelque chose d'autre. Enfin, il subsiste un espoir, le pilote pour une série dérivée, Green Arrow et les Canaries, avec Mia, Dina et Laurel, 20 années dans le futur, qui combattent ensemble. Et l'Arrowverse est tellement cohérent qu'il se termine avec un petit indice sur une des toutes nouvelles séries en cours de production et basée sur le corps des Green Lanternes, histoire sans doute de se venger de l'échec cuisant du film de 2011. En coulisses, le Arrowverse a dorénavant squatté la quasi-intégralité de la grille des programmes de la chaîne CW. Il y a Arrow, il y a Supergirl, Legends of Tomorrow, Flash et la nouvelle justicière de Gotham City, Batwoman. L'Arrowverse accueille aussi Black Lightning, l'éclair noir, un super-héros black, lui aussi originaire de comics, et dont la série a été lancée en 2018. Et même chose pour John Constantine, un personnage de détective de l'occulte, qui fut adapté au cinéma avec Keanu Reeves, et sans succès à la télévision. L'acteur Matt Ryan reprend donc son rôle ici, après avoir fait un guest dans la saison 4 de Arrow, et ensuite en tant qu'une des légendes. En 2012, deux producteurs lancent une série avec un Robin des Bois encapuchonné, adapté de bande dessinée. Ni eux, ni leur interprète, n'avaient en tête qu'ils créaient là un univers partagé et cohérent, qui, lentement mais sûrement, allait devenir une référence pour une nuée d'autres séries et de nouveaux personnages, toutes et tous dans la même continuité. Un univers bâti série après série, saison après saison. Flash, tout d'abord, puis avec un crossover entre lui et Arrow, ensuite avec Supergirl et avec Superman, les légendes qui voyageaient dans le temps, Black Lightning, Batwoman.
Moi, le Monitor, je serai sans doute encore là pour les observer. Des mondes sont morts, des mondes vivent, l'univers ne sera plus jamais pareil. Un univers qui est dorénavant revigoré, prêt à repartir jusqu'à la prochaine crise.
Si vous voulez revivre la carrière d'Oliver Queen en tant que Green Arrow, non seulement AB1 rediffuse Arrow à partir de sa première saison, dès le 13 février, mais surtout les 6 premières saisons sont déjà réunies dans des coffrets Blu-ray, donc top qualité, totalisant 24 disques en tout, en attendant les deux dernières. Les inédits de Arrow sur Netflix, ceux de Flash sur TF1, ceux de Legends of Tomorrow sur C-Star et Supergirl sur Série Club. Ça signifie que donc, si vous voulez suivre le fameux crossover comme Crisis, c'est pas simple. Mais il y a une rumeur comme quoi le crossover tout entier pourrait figurer dans un prochain coffret Blu-ray. La semaine prochaine, je vous entraînerai au cœur du SD6, des mystères de Rambaldi et des missions de Sidney Bristow. On retracera l'évolution de cette série révolutionnaire de DJ Abrams, alias. Ce podcast était réécouté sur les plateformes Podcast Addict, Deezer et Apple.